Bonjour Isabelle.
Bon matin Steve.
Revenons sur ce discours de Donald Trump hier sur l'état de l'Union.
Absolument, ce fameux discours annuel que le président tient devant la Chambre des représentants, hein, où il expose ses intentions, ses priorités pour l'année, mais aussi pour les années à venir, des grands chantiers pour la nation. Ce discours qui devait avoir lieu à la mi-janvier, hein, mais qui a été reporté finalement en raison du shutdown le plus long de l'histoire, là, que la bisbille entre Trump et la Chambre des représentants sur l'adoption du budget a provoqué. Il y avait de nombreux défis de Donald Trump hier devant lui. D'abord, son fameux mur, hein, qui est l'objet de tous les débats politiques en ce moment aux États-Unis. Il demande au Congrès d'adopter le budget qui inclut un financement sur le mur. Le Congrès lui a refusé ça, ce qui a provoqué le shutdown qui a duré plusieurs semaines. Ils ont mis fin au shutdown pour 3 semaines, mais là, maintenant, il faut sortir de l'impasse. Il faut que le Congrès puisse adopter un budget qui dure pour toute l'année, qui inclut ou non un mur. C'est l'enjeu principal, mais ils sont toujours divisés là-dessus. Donald Trump a fait de grands appels hier à la construction de ce mur, mais les intervenants politiques sont toujours divisés. Cette division entre les démocrates qui ont pris le contrôle de la Chambre, mais aussi dans son propre parti. Il devait aussi saisir l'opportunité pour se positionner au-dessus de la mêlée, essayer de rassembler. Le discours en tant que tel avait quand même certains éléments intéressants pour faire ça. Au-delà de la question du mur, il a mis en d'avant cette idée d'éradiquer le VIH pour de bon. Il a proposé certaines mesures sociales qui pouvaient faire un contrepoids à son projet de mur, mais en même temps, dans un lunch privé avec les présentateurs de nouvelles un peu plus tôt dans la journée, il en a profité, lunch privé qui n'est pas resté privé d'ailleurs, il en a profité pour insulter à peu près tous ses adversaires démocrates, là, donc ça mettait un peu mal la table à l'unité. T'sais.
Et ce qu'il y a de particulier un peu là-dedans, c'est que finalement, il a été applaudi à un moment donné lorsqu'il a mentionné qu'à 100 ans, on avait donné le droit de vote aux femmes et que jamais dans l'histoire, il y avait eu autant de femmes sur le marché du travail et aussi élu, hein, que ce soit au Sénat.
Exactement, à la Chambre des représentants. Ouais. En fait, ce qui était vraiment intéressant, c'était une image très particulière, c'est que les femmes, en très grande majorité, ont choisi de porter du blanc pour souligner, comme tu le dis, ce 100e anniversaire du droit de vote aux femmes. Et c'est la première fois qu'il y a autant de femmes à la Chambre des représentants. Quand il a mentionné la participation des femmes à l'économie, toutes ces femmes se sont levées et l'ont chaudement applaudi. Ce qui est intéressant de constater, c'est que dans les faits, ce sont ces femmes-là, principalement démocrates, qui lui ont fait perdre sa majorité à la Chambre des représentants et qui sont, par le fait même, ses principales adversaires dans sa présidence actuelle puis éventuellement dans sa réélection. Donc là, de les voir, elles, toutes habillées en blanc, se lever pour l'applaudir, c'était un moment chaleureux, mais en même temps un moment très ironique. Oui. Et puis il a essayé, hein, par certaines mesures, de les convaincre. Il a notamment parlé d'un congé parental, chose qui n'existe pas d'un point de vue public aux États-Unis. Certains qui ont des assurances ont des congés parentaux, mais c'est pas accessible à la majorité, dont il a parlé d'un congé de quelques semaines. Il a parlé aussi de la sécurité des femmes, là, que les femmes puissent se sentir en sécurité à tout moment ou à certains lieux. Donc, il a essayé de rassembler ces femmes-là, mais quand même, c'était un signe. Quand on regardait le discours, là, l'image que ça donnait, toutes ces femmes en blanc qui sont en fait aussi une réponse à sa présidence, à la misogynie qui exprime tout ça.
Et même leur élection même, c'est quand même une réponse à Trump.
Complètement, complètement.
Parlant de conditions féminines, François Legault a procédé à un ajustement hier au Conseil des ministres et c'est Isabelle Charest qui sera maintenant responsable de la condition féminine. Elle a fait jaser un petit peu en parlant du port du hijab qui constitue un frein à l'épanouissement de la femme.
Ouais. Mais tu sais, sur le fond, il faut quand même saluer le fait que, effectivement, la condition féminine était une responsabilité qui revenait à Nadine Giraud, qui a aussi les relations internationales.
On a pas mal dans
non,
sa
excuse-moi,
cour.
Je me trompe, c'est à Sonia Lebel.
Oui, Lebel.
Qui avait justice et relations intergouvernementales et qui en a déjà beaucoup, beaucoup sur les épaules. Donc, on l'a pris, on l'a sorti, on le donne à Isabelle Charest. C'est une façon de dire que jusqu'à maintenant, tout s'est bien passé pour Mme Charest au Conseil des ministre, en même temps, une façon aussi de donner de la valeur à cette responsabilité-là, parce qu'Isabelle Charest aura beaucoup plus d'espace pour l'exercer. En même temps, première conférence de presse et cette déclaration sur le hijab. On s'entend, il y a différents signes religieux. Le hijab, c'est le foulard qui couvre la tête,
tout mais
qui laisse
visage,
qui laisse le visage à découvert. Pas celui qui descend sur les épaules, là, juste le foulard.
Oui.
Et donc, elle a dit que pour elle, c'était un signe qui la mettait mal à l'aise, qui ne devait pas être porté. Évidemment, elle exprimait là son opinion personnelle, puis probablement que c'est une opinion qui est partagée par un très grand nombre de Québécois, en particulier les femmes, tu sais. Puis il faut faire une nuance, elle a exprimé son opinion, son malaise, elle n'a pas nécessairement proposé de l'interdire partout dans la place publique. Mm-hmm. Puis moi, tu sais, oui, peut-être, j'écoutais Luc plus tôt ce matin te dire c'est une déclaration complexe quand t'es ministre de la Condition féminine, il faut que tu réunisses les femmes. En même temps, moi, j'aime bien savoir où se situent nos élus du point de vue des valeurs. Je pense que c'est la meilleure façon de comprendre les décisions qu'ils prendra, qu'ils prendront à travers le temps. Maintenant, pour Isabelle Charest, ça va être une épine dans son pied. C'est sûr qu'aujourd'hui, il va falloir qu'elle réponde à ça. Mais je pense que au-delà de cette déclaration-là, qui est un malaise qui, je crois, partagé, il va falloir aussi qu'elle illustre comment elle pourra faire en sorte que les femmes qui choisissent vraiment de porter ce signe religieux-là aient quand même toutes les opportunités dans la société, qu'elles puissent, en tout cas, éviter l'isolement puis qu'on puisse permettre leur plus grande intégration.
J'ai pas l'approche, moi. Elle vient de s'assurer, en tout cas, d'avoir bien des discussions animées au cours des prochains mois avec différents groupes de pression.
Exactement. Puis, tu sais, il va falloir, dans le contexte aussi du projet de loi sur la laïcité puis sur les signes religieux qu'ils veulent apporter, elle se met dans une position un peu délicate, mais en même temps dans une position ferme qui, je pense, est largement partagée. Tu sais, on peut pas sortir non plus ce signe religieux-là. Si au Québec, les femmes le font probablement par choix, on peut pas sortir ça de son contexte. On ne peut pas ignorer le fait que dans certains cas, ça se fait en raison de pression directe ou indue, soit de la famille, soit sociale, ou parce que parce qu'elles sentent qu'elles ont une certaine obligation externe de le porter. Puis
il y a
moi,
quand
je
même
pense
un symbole.
Si
ce n'était pas un quelconque symbole, viens me dire pourquoi certaines femmes sur la planète qui ont décidé de ne pas le porter se font arrêter.
Absolument, c'est ça.
Il y a quand même un symbole. Ça représente plus que juste un choix bien personnel.
Une soumission à Dieu, c'est
ouais,
ça, exactement.
Ouais, ouais. Pas convaincu.
On ne peut pas le sortir de son contexte. Puis l'autre chose, c'est que, tu sais, oui, il y a cette question des signes religieux, mais plus largement, là, d'un point de vue de la condition féminine, il y a des grands chantiers. Tu l'as dit pour une fois, tantôt avec le Doc Mayou, 20 000 $ d'écart de revenus
c'est
entre
fou,
les hommes et les femmes sur
de
des salaires, des positions élevées. Donc ça, c'est des problèmes auxquels il faut s'attaquer aussi.
Oui.
Puis la marche des femmes vers l'égalité, elle n'est pas finie. On espère que Isabelle Charest pourra y contribuer.
Les débats sont différents. Merci beaucoup, Isabelle Fontaine.
Merci, à demain.
Merci, au plaisir de se reparler demain.
Salut.